salle gratuitement, tu vois, pour peu qu'on aille voir un petit verre. Voilà. Une jolie demoiselle là-bas qui, en plus, qui a la part facile.
Elle veut toujours passer par la porte. Déjà que c'est gratuit, tu vas pas commencer.
Je suis aussi très heureux d'accueillir ce soir pour ce premier tea time, cette série d'événements qu'on va organiser tout au long de l'année, si tout va bien.
Si on arrive à avoir ça ou pas dans la
journée. Donc je suis très heureux d'accueillir ce soir Ladies First, Selina Chambers. Qui a co-écrit avec Jeff Vandermeer la Steampunk Bible, qui est spécialiste d'Edgar Poe, et maintenant du Steampunk, et aussi une grande fan de Steampunk français, comme vous avez pu lire sur le site. Elle a étudié l'art du 19e.
Je suis traduite au facteur parce que.
On accueille aussi Étienne Barrier, qui n'est plus à présenter, spécialiste français de Steampunk, auteur de Steampunk pour le futur. On signe aussi les articles, membre éminent de notre club, French Steampunk, qui signe les articles sur le pseudonyme de professeur Étienne. Ce qui est malheureux, c'est que c'est toujours lui qui rapporte le plus de trafic sur notre site. C'est comme ça, c'est les articles les plus intéressants. On va commencer par une petite présentation de Selina, présentation qui a fait le tour des États-Unis, qui a été à Londres la semaine dernière et qui finit donc sa tournée mondiale pour présenter son book ce soir, donc aux États-Unis. Donc, j'espère qu'on lui fera un bon accueil pour sa dernière soirée. Et je voudrais aussi terminer pour remercier Anise qui est là ce soir. Et on attend aussi Vincent, qui sont Anise anxiogène, qui fait des photomontages et aussi des horloges avec des conseils dedans. Vincent futur à vapeur, je vous connais, les deux parents des historiettes de Monsieur Sandalère.
My French is very bad, so I thought I would save you all the horror of having to hear me stumble through it. So,
ton français n'est pas top, mais on va y arriver.
What I would like to do is kind of talk about how Jeff Vandermeer and I wrote the book and what we explore in the Steampunk Bible.
Donc l'idée, ce serait qu'elle vous présente comment ils ont pris toutes les articles qu'ils ont rassemblés pour écrire le livre et comment tout ça s'est mis en place.
In the United States, there are a lot of people who are very concerned that steampunk is nothing but a trend. And one of our goals with the Steampunk Bible was to establish an aesthetic that wasn't necessarily found in clothing boutiques or anything that you could really copy. We wanted to find the originality of the steampunk.
Donc au départ aux États-Unis, ils trouvent que c'est un peu une mode de boîte qui n'a pas grand intérêt. Et en fait, le but du jeu, c'était de présenter, de voir justement toute la richesse du milieu, qui n'est pas spécialement boutique.
To do that, we tried to establish its historical origins. We traced the prototype roots back to obviously Jules Verne, H.G. Wells, and then also the Conte philosophiques of the early science fiction writers in actually the 1700s, and then also Edgar Allan Poe.
Donc l'idée c'était de retourner aux bases vraiment de la science fiction avec Wells, un peu Verne, enfin tous ceux qui étaient partis des fascicules en science fiction au début du 19e.
The origins of science fiction was dealing with.
Si je parle pas assez fort. C'est bon.
What the steampunk science fiction has in common with the pioneers is they were trying to come to terms with the technology that was before them.
Donc Donc ce qu'il y avait en commun entre la science-fiction et le steampunk, c'était de retranscrire toute la technique qu'il y avait à l'époque.
Edgar Allan Poe was writing right at the beginning of the Industrial Revolution and before the American Civil War.
Donc Edgar Poe, il écrivait au début du 20e, au 19e et au début de l'industrialisation.
And his time was filled with the belief that anything could be fixed by science, and he was very skeptical of that.
Donc à l'époque, on considérait que tout pouvait être capté par la science, ou pouvait être expliqué par la science, et lui, il n'était pas tout à fait d'accord avec ça.
So he lied to the public a lot.
Donc il a beaucoup menti aux gens, et il a essayé de faire un peu comme il pouvait avec les règles scientifiques de l'époque.
Yes, he wanted to create a form of fiction that was based on fact, that would convince the audience that what was happening was reality.
Donc en gros, il essayait d'écrire des fictions qui pouvaient convaincre les gens que ce qu'ils disaient c'était la vérité alors qu'en fait.
One of the best examples is a story called The Balloon Hoax, in which he predicted balloon hoax. The Balloon Hoax.
The name of a book had a
canular du ballon.
Ah, okay.
The Balloon Hoax. Sorry. Go ahead.
Je peux la phrase du coup.
Pardon.
C'est le canular du ballon, quoi.
The Balloon Hoax was a story that ran in a newspaper at the time called the New York Sun, and it actually predicted within an hour the first transatlantic balloon voyage.
Donc en gros, le canular donc du ballon, ça consistait à reprendre un événement qui avait eu à l'époque, comme quoi il disait que en fait avec le dirigeable, il pouvait passer la mer.
He used techniques such as he wrote in a journalism style. He copied the way that newspapers print information. They didn't have headlines so much as they kind of had a introduction to the article.
Donc il a repris en gros la forme des journaux de l'époque pour lui introduire sa fiction à lui sous la forme de ce canular.
And then he also used real figures in the ballooning community. So it actually seemed that these diaries were being written by experts in the field, so everyone believed everyone.
Comme il avait des contacts un peu dans la communauté scientifique et qui était autour de l'histoire du ballon, il a vraiment rédigé le journal de manière scientifique et crédible aux yeux des gens qui ne connaissaient rien.
That ability to create a reality out of a false reality is what really influenced Jules Verne and H.G. Wells in their science fiction.
Donc voilà, en gros, la réalité scientifique de l'époque, ça a beaucoup inspiré Wells et Verne.
Jules Verne especially took Poe's credo of writing things true to life to the point that you could write a blueprint based off of the Nautilus.
Attends, what do you just something.
Jules Verne was very influenced by Poe's authenticity. So much that Verne wanted every single thing that he wrote to be factual.
Donc en fait, il était tellement influencé par les journaux et la façon d'écrire de l'époque qu'il voulait tout rendre crédible, vraiment utiliser vraiment la prose de l'époque et reprendre tous les titres vraiment dans le style de l'époque pour rendre les choses crédibles.
That interest in building things out of fake reality is sort of what set the tone for late 19th century romantic science fiction. The drive to invent fiction out of reality sort of set the tone for late 19th century.
Donc il a, en gros, il a dû inventer un terme entre le mélange de la fiction et de la réalité pour rendre les choses un peu près de ce qu'on a appelé après le néo-romantisme.
So from there, that's basically how we introduce the steampunk Bible. From there is we use that basis of science fiction to explore what the writers in the 80s and 90s began to explore, like Michael Moorcock and Tim Powers.
Donc ils sont dans leur exploration du steampunk, ils sont donc partis de cette vision du mélange de fiction et de réalité pour explorer vraiment la science-fiction de l'époque et en faire vraiment une base documentaire.
In the 19th century, after the American Civil War, technology began to be used for evil. Not evil, but there were more efficient killing machines.
Donc au 19e, qui était après la guerre civile, ils ont commencé à plus utiliser la science de façon à buter les gens, quoi. C'est-à-dire que ça devenait plus des armes de guerre que des trucs mignons à peu plus faire.
And you get to, when you get to Wells, you begin to see some literature filled with Zeppelin wars, warfare. It becomes a preoccupation in late 19th century science fiction.
Donc c'est devenu plus des choses scientifiques, comme utiliser les zeppelins comme un peu arme de guerre, et voilà, c'était plus le côté mignon du dirigeable.
Authors like Michael Moorcock take that same theme and they use it to explore more modern preoccupations about imperialism, colonialism, and sort of a guilt of history.
Donc voilà, la première œuvre de Marl, c'est donc été de montrer la vision plus impérialiste et plus vindicative avec le Zeppelin, et voilà, qui était moins la version mignonne et romantique à l'œuvre.
That becomes a motif throughout the literature in that they are using the past as a conversation for the present and the future. Basically, science fiction as a whole is sort of a metaphor for some kind of political issue, and the steampunks bring that back and dress it up into adventure and fun, and they make it more accessible.
Attends, j'ai pas dit. Oui. Alors, oui. Donc, en gros, ils sont partis donc de cette vision vindicative, mais le steampunk a voulu plus reprendre le côté fun et a repris un peu le côté romantique et tout en gardant cette vision qui était un peu impérialiste et donc qui a été. Oh.
Oh. From the fiction, we move on to. From exploring the themes in the fiction, we moved on to comic books, which we have more of a representation at the time that we were researching the book of American and British artists. We have Brian Talbot from Granville.
Donc on est passé d'une transition qui était l'imitation de fanzines de journaux à plus la transition vers les comics. Avec plus donc un appel à la réalité actuelle, mais de mélange. J'ai zappé le nom d'auteur.
Ah oui.
Brian Talbot.
Brian Talbot.
Ok.
Traduit en français.
Oh, attends, dis-le toi le nom. Hein.
Donc Granville de Brian Talbot, qui est vraiment la bande dessinée qu'il faut que vous achetiez, que vous lisiez ce week-end.
Quand les distributeurs sont fermés, c'est cool.
Vous le commandez ce week-end. Si vous voulez présenter en deux mots la bande dessinée, vous imaginez une fiction animalière, donc les personnages sont des animaux, avec le personnage principal qui est un blaireau, je crois, mais pas le genre avec qui vous voulez vous présenter, c'est un vrai blaireau, donc britannique, mais c'est une uchronie, parce que l'Angleterre a été conquise, c'est la France qui domine le monde, et Paris est devenue la ville de Granville. Granville qui était un illustrateur du 19e siècle, je ne sais plus, enfin c'est un hommage. Alors on mélange donc l'uchronie, une enquête policière, des clins d'œil, alors aux caricaturistes et aux illustrateurs du 19e siècle dans le premier volume, à la bande dessinée franco-belge dans le deuxième volume. Cela se lit d'une traite, c'est chez Milady. Et en plus, on a une édition française, The French Edition, avec des suppléments à la fin du volume qui sont merveilleux. Trouvez une librairie de bon goût et commandez-le.
T'as des problèmes, toi. Tu notes le nom. Voilà, on fait le secrétaire, note le nom.
We also have
The Adventures of Ada Lovelace and Babbage, which is done by the British artist Sidney Padua.
Du coup, si tu connais mieux les BD que moi, tu peux pas en parler parce que moi, je les connais pas.
C'est une BD qui s'appelle Ada Lovelace. Exactement, qui est en ligne. Je sais pas, is there any printed version?
No, it's a webcomic.
C'est un webcomic. Donc c'est consultable gratuitement.
Par Sidney Padua.
In that comic, unlike the sort of animal fantasy noir, she actually just uses history as a way to kind of bring attention to women in science. So the heroine is Ada Lovelace, and her kind of best friend slash villain is Babbage, and they eventually work together to make the difference in
Jean. Le but, en fait, cette BD, c'est attirer les enfants sur les découvertes scientifiques, et avec son meilleur ami, elle va montrer plein de trucs. Ça va être super fun et en même temps hyper éducatif.
D'accord.
On est un peu au moitié.
In exploring the comics, one thing that we saw emerging is art. Two-dimensional art is not enough for a lot of the steampunk artists. They like to, kind of like Jules Verne liked to take his fiction and make it seem real. The artists liked to take their representations and bring them into reality.
Donc voilà, comme la 2D ça leur suffisait pas, ils préféraient sortir les choses dans la réalité et donc de faire des armes en 3D et de se représenter les choses en 3D.
Best example is Greg Broadmoor's Weta Workshop and Dr. Gordbert series. And I'm sorry that this is on a computer, but this is his workshop. And he makes these little guns that come from a sort of a imperialist explorer noir comic series. Creates relics that people can possess so they can actually become part of that world.
Donc voilà, c'est pour que les gens prennent possession de ce monde-là, c'était de leur faire des armes 3D, qui est plus un look de
Greg Broadmoor. Vous connaissez ou pas?
C'est
lui qui travaille pour Weta, donc néo-zélandais. Weta, c'est eux qui ont fait les trucages du Seigneur des Anneaux, qui ont fait qui travaille sur Tintin actuellement. Et lui, il avait son petit, il faisait ses petits trucs steampunk dans son coin. Et ils lui ont dit, tiens, c'est sympa ce que tu fais, alors on va le vendre. Parce que bien sûr, ils vendent les répliques des épées du Seigneur des Anneaux, les armures, etc. Et ça a eu de plus en plus de succès. Aux États-Unis, ils ont sorti des catalogues illustrés, et donc c'est les aventures d'un personnage. Cela a été traduit en français chez Bragelonne. C'est mini graphique. C'est très très drôle. Donc c'est des armes steampunk avec les aventures d'un colon. Comment ça s'appelle?
Lord
ouais, comme je souhaite. À noter que c'est lui qui a fait l'affiche des Utopiales de cette année, dont il est l'invité d'honneur, et qu'il y aura cette année donc l'exposition Gambort aux Utopiales à Nantes. Et c'est tout simplement sublime.
Ça va, je peux l'avoir. Hein. C'est pas compliqué.
C'est le week-end du 11 novembre.
Tu me raconteras.
So beyond the comics, we transition to art and making.
Donc, la transition avec le comics, après, c'est donc la transposition de la réalité des niveau artistique. Voilà.
This is not a steampunk artist. He is a roadside attraction. Roadside attraction? Someone on the side of the road, did you say?
Is it something you were hunted?
Tour, yeah, Forever Trunk. Roads, how do you...
Une sorte de...
Non, une sorte de parc d'attraction sans attraction.
C'est du pestacle itinérant.
Ouais.
Ouais, voilà.
No.
C'est des sculptures monumentales itinérantes.
C'est pas itinérant, mais...
He's a very old man who lives in Wisconsin. He used to work for NASA, and when he retired, he just began collecting scientific trash. He has pieces from old Apollo airships, trash that's been recovered, things like that.
Voilà, quand il a pris sa retraite, il n'a rien trouvé de mieux à faire qu'à collecter des vieux trucs scientifiques qui ne servaient à rien.
Donc
il s'est dit, ouais, il va mettre tout ça ensemble et ça fait un truc joli qu'il a repeint et qu'il a fait. Voilà.
C'est un retraité de la NASA. Et,
voilà.
Dans son parc imaginaire, il y a des bouts d'Apollo recouverts d'autres débris scientifiques qui forment cette sorte de monde imaginaire.
And he assimilated these pieces of scientific trash to create this narrative for Queen Victoria and King Albert, and he made this scientific city / great exhibition narrative for them.
Donc après il a fait un espèce de parc d'attractions imaginaire de l'époque, ouais, dédié à Victoria et à l'occasion.
Il a créé toute une histoire en
voilà.
And the reason that we picked this non-steampunk artist is because he merges within his work the two strains of what we believe is the artist and the maker. Many people within the steampunk community believe that you are one or the other. Makers do not want to be artists, artists do not want to be makers.
Donc en fait ce qui est génial avec lui c'est qu'il a regroupé les deux aspects dont on pense dans la communauté steampunk qu'on peut pas avoir les deux qui sont l'artiste et celui qui fait. Lui il a rassemblé les deux.
And within this piece, the difference between art and making is that the makers maintain that their pieces are functional.
Donc la différence entre les deux c'est que celui qui fabrique, le fabricant, il prend des objets et les rend fonctionnels.
And the artists are just for aesthetics. The artists, the idea.
Le créateur crée des objets fonctionnels que l'artiste travaille juste l'esthétique et pas forcément la fonctionnalité. On a la pièce en tant qu'œuvre d'art.
In Forevertron, you have this. It's not a functional piece at all. It's a pure sculpture, but at the same time, it looks very much like the works of Jake Von Slot and the other makers who have made these really archaic scientific pieces, so it sort of merges the two. And we use that as the introduction.
Ce qui est intéressant dans son travail, c'est que c'est un artiste, il n'y a pas du tout cet aspect fonctionnel à son œuvre, et malgré tout, il y a cet aspect fonctionnel qu'il a réussi à donner, on a l'impression que ça marche, et ça fait écho au travail de Jack Van Slate, de Steampunk Workshop, qui lui est un créateur avec des objets vraiment fonctionnels. Et Jake Van Slate a participé activement à l'écriture de ce livre. Et d'ailleurs, c'est lui qui fait l'introduction avec son manifeste pour le steampunk. Et donc, c'est ce qui a servi en fait d'introduction à l'écriture de ce livre.
Oh, hold on.
On aurait bien voulu le mettre en
avant,
Where is it?
Wisconsin?
Wisconsin, too.
So in addition to the art and maker debate, we also inadvertently discovered a preoccupation or theme of mecha animals. So throughout the book you will see a lot of mechanical frogs, mechanical elephants.
Donc une des préoccupations c'était de voir comment les animaux y marchaient, donc ils imaginaient qu'il y avait tout un mécanisme, et donc il y a toute une étude de comment la bébête elle peut bien marcher si elle avait des mécanismes dans le ventre.
Oui, ce sont les animaux de l'île. Les machines de Lille, vous pouvez voir à Nantes.
Il est beau.
C'est la compagnie Royal de Luxe.
Ah oui, je connais.
Donc ça, c'est visible à l'année, c'est sublime.
Récemment, il y a eu une exposition aussi.
C'est à Metz.
Yes, yes.
Voilà. Une exposition, en fait, une exposition sur les hommes.
Mais à Nantes, c'est visible à l'année. Hein.
Oui.
Et on peut monter dans l'éléphant.
Oh. Yes. We actually blame Jules Verne for the mecha animals. This is the steam house from Ile de Mouchy. I'm sure everyone has this. I'm not used to being in a country where it's that.
Just in the same opinion.
Jules Verne wrote a book called Dawn of Cawnpore, The Steam House, which was about two gentlemen who go to India, I believe, in their kind of airstreamer elephant.
Voilà, Jules Verne, il a écrit une nouvelle que je vous appelle non, mais bon, c'est pas grave, vous irez voir, hein. Vous épilerez à lire le bouquin. Donc, dans lequel il y avait une maison qui était dans un éléphant, et c'était un des. Tu m'as dit, oui, j'en oublie la moitié en bout.
Non, non,
non,
c'est ça.
Ça va ?
Non,
c'est bon, vraiment. Tu me dis, si tu me connais.
Ah, c'est bon.
It just kind of added a nice touch to establishing an aesthetic for the movement. It's just a nice theme of, again, kind of taking the organic and the mechanical and combining them into new things.
Donc, ouais, c'est un des fondements, en fait, du milieu du steampunk, c'est de prendre l'organique et la mécanique et de voir ce que ça donne et de faire des choses avec.
Voilà. And then we have fashion.
Wow.
Steampunk fashion.
Voilà.
We just explored the beginning origins of it and how it was incorporated with role playing.
Donc voilà, on passe donc à l'exploration de la mode qui a un rapport avec le role playing.
And for those who are unsure how to dress steampunk, we have instructions for you in the Bible.
Pour ceux qui cherchent encore comment s'habiller à la mode steampunk, il y a tout dans le livre. On pense surtout à toi.
Fashion actually kind of jumps back into the art and maker movement in that everyone usually makes their own costumes, their own jewelry. Annelise, for instance, makes her own jewelry.
Donc le principe c'est que chacun fasse son truc comme dans le roleplay. Chacun construit ses bijoux, ses fringues, voilà. Donc
pour roleplay quoi. For sale at Montremont. Her pieces are for sale at your store?
Yeah.
Mm-hmm.
Voilà, tout à l'heure.
Ah, d'accord. Most when you start getting into fashion, you start getting into the community cultures. So at conventions and things like that, you will see people bringing their characters to life with their clothing. Again.
Donc après, il y a un aspect de communauté où ils sortent donc leur personnage de la réalité, c'est vraiment beau.
Ça existe toujours,
il y a d'autres gens comme vous, vous pouvez vous rencontrer.
Mais il y a une grande différence entre le cosplay et le cosplay steampunk. C'est que dans une réunion cosplay, on va s'habiller et on va reprendre un personnage qui préexiste. Ah, je vais m'habiller en Naruto.
Oh non. Je pas ça pour le cosplay, quand même, il y a des trucs mieux.
Mais c'est pour que tout le monde comprenne.
Yes. Mais ils sont pas cons, quoi.
Par... Mais par contre, dans le cosplay steampunk, j'invente mon propre personnage. C'est un personnage qui n'existe pas. Et certains vont aller, là on est dans l'héritage du jeu de rôle, leur personnage va avoir une biographie, une existence, il va avoir il va vivre des aventures. Donc il y a toujours cette idée, exactement comme elle le disait tout à l'heure, que l'on est à la fois acteur et créateur. Et là c'est vraiment spécifique à ce qu'est le steampunk actuellement. But what does unite all of these bands is the maker element again.
Le point commun entre tous les groupes steampunk est l'aspect artisan créatif.
For instance, this band Human Wine, they're very punk. They live on 10 acres of land in a trailer that they have made self-sufficient off of methane. Off the grid.
Human Wine a une approche très punk de la musique steampunk. Ils vivent dans un trail farm, dans des gigantesques caravanes. Ils ont construit eux-mêmes. Ils sont en autonomie totale au niveau énergétique. Et donc ça fait partie de cette approche steampunk aussi, comme mode de vie et l'approche plutôt punk.
They're very political, and they use steampunk as a vehicle to write stories about Vinland, which is an oppressed society, and their music basically talks about how to overcome oppression.
Ils ont une approche très politique dans leur musique. Tout tourne autour d'une relecture très oppressive du monde, et ils expliquent comment résister à cette oppression. Comment dépasser. Voilà, on oscille toujours entre cet aspect vraiment steam, création, autosuffisance et le punk, qui est cette approche aussi de Winterfell, du punk des années 60.
So, what they have in common with all the other musicians is they use their creativity and imagination to discuss about the world by looking sort of retrospectively at it.
Ce qu'ils ont en commun donc avec ce groupe a de commun avec tous les autres groupes steampunk, c'est cette approche, c'est la créativité, cet aspect imagination et cette culture rétro qui leur fait imaginer une sorte d'autre monde. Ils nous font imaginer qu'un autre monde est possible. Avec c'est vraiment cette perspective rétro. On part d'un point dans le passé et on réinvente notre présent.
Just going to kind of pause from the narrative for a second to continue with the idea of the imagination and creating a world that does not exist but that you can inhabit.
L'un des aspects très intéressants du steampunk, ce côté créatif, la création d'un monde, d'un univers, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la création d'une personnalité, on crée nous-mêmes nos costumes et on crée nous-mêmes un personnage fictif et on se crée un monde autour de ça.
These four girls are called the Chronobells.
Ces quatre demoiselles sont partie d'un groupe qui habite dans un zeppelin, qui habite dans un zeppelin imaginaire qui s'appelle HMS Chronobel,
yes.
Le Her Majesty's Chronobel. C'est le nom de leur zeppelin. Ils s'inventent des histoires.
They've known each other since high school. They wrote this world together, and then they went to college and separated. But they always have the HMS Chronobel to reunite upon.
Elles se sont connues au lycée. Elles ont créé petit à petit cette histoire, ce monde autour de ce zeppelin. Maintenant qu'elles sont tous dispatchées à travers les États-Unis, elles ont ce point commun et elles continuent d'écrire l'histoire aux quatre coins de l'histoire de ce zeppelin, de cet équipage. Même aux quatre coins des États-Unis.
My co-author and I, Jeff, thought that was the spirit of steampunk. So we had two artists bring their world into reality. We had artist Krista Brennan illustrate them in their steam saunas.
Mm-hmm. Jeff Vandermeer et donc Sylvina Chambers trouvaient cet aspect du steampunk très intéressant. Ils ont proposé à ces demoiselles et aussi à deux artistes de mettre en image HMS Chronobel. What's the name of the artist?
Krista Burnett.
Donc Krista Burnett a eu la chance de mettre vraiment donner vie donc à ces quatre demoiselles et à mettre en image ce qu'on appelle les steam saunas. Les steam saunas, ce sont les personnages fictifs que chacun s'invente, on crée un nom, on se crée un costume, on crée une histoire autour de son personnage, on le fait vivre.
We also interviewed them and asked each of them, without discussing it with the other person, to describe their ship.
Et elles ont une interview. Chacune d'entre elles ont été interviewées séparément et elles ont demandé. La question de base était chacune d'entre elles devait décrire le zeppelin.
We took their responses and gave them to British artist John Coulthart, who did the Michael Moorcock cover earlier. And he took from their responses images and made a drawing of their ship. So for the first time, through the steampunk Bible, they got to see the ship that they had created.
Donc, elles ont été donc Jeff et Selina ont rassemblé les descriptions de chacune d'entre elles à propos de leurs zeppelins ils ont demandé à un artiste britannique qui s'appelle John Coulthard qui avait fait la couverture de Michael Moorcock que vous avez vu un peu plus tôt et donc Coulthard a récupéré les grandes caractéristiques de ce navire et il a dessiné le zeppelin et donc pour la première fois ces quatre demoiselles ont pu avoir une représentation graphique de leur du zeppelin qu'elles avaient imaginé et écrit des années auparavant.
And again, you see the mega animal
et on revoit ici les caractéristiques de ces animaux gigantesques qu'on a vus auparavant avec les machines de livre.
French steampunk.
On va parler un petit peu.
So after we have looked at the fiction, the music, the art, and the comics and the fashion, the only way that Jeff and I could establish an aesthetic for steampunk was to look at what the future of steampunk is.
Après qu'ils aient discuté de tous les aspects steampunk, la musique, l'art, la mode, le seul moyen de donner définitivement une description du steampunk a été de réfléchir à ce que steampunk pourrait devenir.
It's beyond Victoriana. We met I was introduced to French steampunk through Morgan, and through that we saw art and writing being done outside of Queen Victoria's empire.
Alors l'idée était de sortir du de l'archétype victorien et de l'époque victorienne, et donc j'ai eu la chance de discuter avec Selina de tout ce qui se passait en France et d'essayer de promouvoir, enfin de voir quelques artistes français.
Oui. And French steampunk artists are very much working within their own unique history and culture, like Sam Van Olfen.
Dans le steampunk français, les artistes ont chacun vraiment, pour beaucoup d'entre eux, un univers très particulier, notamment celui de Sam Van Olfen, qui est un artiste qui était jusqu'à très peu de temps un artiste montpelliérain, mais maintenant il est à Bruxelles, qui fait du sampling graphique.
He is taking from elements of French history and sort of updates them into anachronistic explorations of a world that could have been had science not progressed beyond a certain point.
Donc il prend des représentations françaises, notamment il a toute une série sur des personnages français. Il réfléchit donc à ces représentations, ce qu'ils auraient pu être si on les voyait aujourd'hui, mais que la science s'était arrêtée à un certain point dans le passé.
Other people are making steampunk worlds based upon their own unique history, like James Ning.
Et d'autres artistes, là on sort du steampunk français, James Ning, par exemple, qui donne une touche très personnelle au steampunk par rapport à leur propre histoire. Il est chinois, oui. So, James Ning a des origines chinoises, donc il essaie de mélanger le steampunk à son héritage chinois.
Just like Sam Van Olfen explored what the future would look like had the past not progressed beyond a certain point. James Ning actually looks at what would have happened to China had the Industrial Revolution happened to Hong Kong in the 19th century.
Un peu comme c'est un peu la même approche que Sam Van Olfen, qui réfléchit à si qui s'était dit, tiens, si la science s'arrêtait à un certain moment, que serions-nous aujourd'hui. James Ning, lui, a carrément déplacé la révolution industrielle, et il s'est dit, qu'est-ce qui se serait passé si la révolution industrielle avait eu lieu à Hong Kong au 19e.
Yeah, so you can see within his paintings Zeppelin, very Western invention, but modified with very common Eastern characteristics.
On peut voir ici dans cette forme de Zeppelin des caractéristiques très occidentales.
Pardon, tu veux prendre la page? C'est
la dernière page. Mais bon, il y a une représentation très occidentale, et en même temps, on voit quand même beaucoup de caractéristiques de l'Orient dans ses créations.
So the answer is steampunk as an aesthetic is a vehicle for people to basically discuss what history was, is, could have been, and also provides an aesthetic to kind of keep your imagination alive.
La conclusion qu'on pourrait donner à ce livre, c'est et ce qui en ressort, et ce qui ressort de leur étude, c'est que l'esthétique steampunk sert à questionner la science sur ce qu'elle aurait pu être, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle pourrait devenir.
Et garder l'imagination.
Okay. Voilà. Et garder l'imagination.
Oui.
Okay.
Merci.
Bien sûr, ce livre ce livre est à...
est assez limité par sa condition physique. Donc il y a un site internet qui s'appelle steampunkbible.com. Il y a plein de choses qui auraient dû être dans le livre, mais qui n'ont pas pu y être pour diverses raisons. Parce qu'il a fallu faire une sélection. Et donc il y a plein de choses sur toutes les interviews de demoiselles de HMS Cronenberg, par exemple. Voilà, tout est dessus. Et c'est mis à jour très régulièrement. On va parler maintenant, on va discuter un petit peu avec Monsieur Étienne. J'ai d'abord une question toute simple, un peu pour vous deux. J'aimerais connaître, vous, votre définition du steampunk.
What is...
On peut demander ça.
C'est la question que je voulais vous poser.
En quelques mots.
Le steampunk est une uchronie référentielle déviante. Trois mots.
Uchronie référentielle
déviante.
I think that's perfect. But my definition of
ta définition est très bien.
Oui.
Mais en a une.
In the United States, we don't really have a uchronie. So our definition of steampunk has been it's a retro-futuristic movement. That stems from the aesthetics of Jules Verne and H.G. Wells. But then, when I give that definition, I say, no, it's not true. There's more to it than that.
Disons que pour simplifier, comme n'ont pas cette expérience, cette culture de l'uchronie aux États-Unis, donc la définition qu'elle donne d'habitude pour un peu simplifier le mouvement, c'est un mouvement rétro-futur dont l'esthétique est largement inspirée de Jules Verne et H.G. Wells. Mais bon, bien sûr, elle nous dit qu'il y a bien plus que ça. Pas résumer le steampunk, c'est juste ça.
On pourrait juste expliquer le mot référentiel, qu'est-ce que ça signifie ?
Bah justement, parce que le steampunk n'est pas un mouvement isolé, c'est un mouvement qui fait référence à des choses antérieures. Il n'y a pas une œuvre steampunk qui n'est pas un clin d'œil, une citation ou une référence cachée au troisième degré. C'est sa nature.
D'accord. Et justement, qu'est-ce qui attire tant dans le steampunk ? Voilà, on a un peu une foule bigarrée, des gens costumés, des gens qui ne sont pas du tout, tout le monde est très intéressé. Qu'est-ce qui attire vraiment dans ce mouvement ?
Ah oui,
non.
Pour vous dire vraiment ce que je pense, et sans plaisanterie, ce qui attire dans le steampunk, c'est que c'est à la fois facile, on comprend immédiatement, parce que ça nous parle immédiatement. On voit une image steampunk, en deux secondes, on a compris ses codes, on sait ce que c'est. Le steampunk, c'est facile. Et en plus, c'est cool. Et c'est vraiment, c'est ce que je crois au plus profond. Une œuvre steampunk se reconnaît à ça. Qu'elle travaille dans l'angoisse, dans la peur, dans l'aventure, dans le clin d'œil, tout ce que vous voulez, ça reste cool. Et c'est bien. Voilà.
Yes, I agree with that, but I think the appeal of steampunk, the metaphor that I've sort of used for it is that it's a stage in which the imagination can play upon. No matter what you're interested in, it's whether it's music or fashion or role-playing, writing, art, there is something for everyone within steampunk. It's very accessible.
Elle rejoint vraiment la définition d'Étienne. Elle ajoute en fait que pour elle, le steampunk, c'est une scène sur laquelle l'imagination peut s'exprimer librement. Et surtout, chacun, avec son imagination, peut y mettre ce qu'il veut à l'intérieur. Et donc, c'est ce qui fait le côté unique du steampunk, c'est que chacun y met un peu ce qu'il veut.
Et surtout sous la forme d'un pied de nez, parce qu'on est dans une époque qui est assez triste, et que justement, retourner vers le futur, dans le but de retourner le futur, hein, au sens de le refaire, ça permet de réenchanter les choses, de rendre les choses merveilleuses. Un téléphone steampunk est un objet merveilleux, il est beau. Quand est-ce que vous avez trouvé pour la dernière fois votre téléphone beau? Apple veut nous convaincre que notre iPhone est beau, mais c'est un iPhone qui est produit à des dizaines de millions d'exemplaires, tandis que votre téléphone steampunk reste unique et est proche de vous. Hein, il reste à la dimension humaine.
Mais ça, c'est un beau mot, ça. Dimension humaine, ça, c'est un beau mot. C'est un beau fort.
Mais je crois que c'est quelque chose dont on a vraiment besoin actuellement. Que les artistes s'en emparent. Remettre l'homme et l'humain au centre des préoccupations. Donc revenir peut-être dans un 19e pour le monde anglo-saxon, pour un 20e dans un monde francophone, où justement on repose de nouveau ces questions-là, et où ces questions ont pris naissance, d'une certaine façon.
Mais à ce niveau-là, on parle quand même de révolution industrielle, etc. C'est l'industrie qui supplante l'homme, c'est finalement, d'une certaine manière, la machine qui a servi l'homme. Mmh. Donc finalement, c'est paradoxal qu'un steampunk prenne l'homme comme centre d'intérêt, si j'ose dire, comme centre de développement. Tout en faisant référence à finalement ce qui l'écrase le plus.
Oui, mais justement, je pense que c'est à partir de là qu'on peut s'arrêter, puisque on ne fait pas la distinction entre le col bleu et le col blanc dans le steampunk. L'artisan, justement, et l'artiste sont la même personne. Et c'est ça qui fait justement tout l'attrait de la chose. C'est que chacun peut être justement soi-même le dépositaire, non pas d'un dispositif écrasant, mais d'un savoir immense. Justement, qui va rallier à lui, qui va étirer, justement, et qui va pouvoir transmettre à son alentour.
Et aussi, à savoir que les machines à l'époque, c'était quand même une dimension humaine.
C'est aussi.
Tu pouvais le faire avec du moine.
Oui, absolument. Bien sûr, il y a ce côté-là. C'est, je veux dire, il y a cette culture du gigantisme, cette culture finalement de la multiplication des machines. Je veux dire, l'exposition universelle de 1905, c'est quand même un bel exemple. On en a la preuve pas très loin. C'est asseoir finalement une image extrêmement brute, extrêmement inhumaine. On sait que c'est une petite fourmi humaine qui ont monté la bestiole, si j'ose dire, c'est-à-dire un forêt faible en l'occurrence. Mais...
Oui, mais à la différence, et pour compléter ce que vous dites, nous, on écrit ça au 21e siècle.
Oui.
On sait ce qu'on est devenu ensuite. Donc, on n'est pas dans l'admiration béate, mais au contraire, on peut mettre en perspective, comprendre et rêver de le corriger.
Est-ce qu'on pourrait dire que le steampunk pourrait être un réenchantement de la science, au sens qu'on a dit souvent justement que la science est quelque chose de froid, qui désenchante le monde de son peuple, je pense que c'était la fantaisie avant. Est-ce qu'on pourrait voir le steampunk comme justement un réenchantement de la science elle-même et voir cette espèce de grand monstre comme ce que sont les dragons par exemple dans l'héroïque fantasy, et les grands monstres justement mécaniques, tout pourrait être
Le réenchantement de la science. Voilà. Quand j'ai grandi, puisque bon, c'est le steampunk, je suis convaincu que c'est toujours une histoire personnelle. On a tous une liaison avec une forme de steampunk et je ne suis pas sûr qu'on partage tous la même. Donc quand j'ai grandi, l'espace me faisait rêver. La conquête spatiale me faisait rêver. J'aurais donné tous mes Lego pour être à bord d'une fusée spatiale. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que... Voilà, est-ce qu'on rêve d'aller dans l'espace aujourd'hui? Je ne crois pas. Je ne crois pas que cet imaginaire-là existe encore. Et je crois qu'à mesure qu'on cessait de rêver le futur à cause d'un présent asphyxiant, eh bien, on s'est mis à rêver le passé. On prenait c'est un peu comme un cours d'eau qui arrive pas, qui est bloqué et qui va trouver un chemin de traverse. pour tracer un nouveau ruisseau. Et donc, on est allé de l'avant en allant à rebours.
As far as being preoccupied with the present and not being able to explore where we're going, there's a huge multicultural movement with writers like Aileen the Peacemaker and Jamie Goh, who use the 19th century as sort of a controlled experiment to talk about what happened to their cultures and how and why their cultures are considered third world countries in the 21st century.
À propos notamment de ce questionnement sur le fait qu'on n'arrive pas à imaginer notre futur, beaucoup d'auteurs, enfin quelques auteurs de steampunk, Aileen the Peacemaker, donc Aileen the Peacemaker qui est un super site qui s'appelle Beyond Victoria,
yes,
qui parle de multiculturalisme, en fait quelques autres auteurs se servent du steampunk comme une sorte de laboratoire pour tester et réfléchir à d'autres façons de vivre notre présent.
It seems very frivolous, but when they go to conventions, the way that they dress, their steam sauna, is a constant questioning of Western history and their history, and they use the entire idea of steampunk to build upon social identity and politics.
And elle s'est rendue compte qu'en allant dans les conventions aux États-Unis, elle a rencontré beaucoup de gens par rapport à son livre. Ces personnes, comme donc Aileen the Peacemaker, qui est d'origine vietnamienne, pour beaucoup de gens, son pays est considéré comme un pays du tiers-monde. Et donc, on voit dans leur costume steampunk un questionnement sur justement cette multiculturalité. Et donc il y a un questionnement toujours politique, jusque dans la façon de s'habiller.
Je me suis demandé dans quelle mesure le steampunk était réactionnaire, mais non pas réactionnaire tel qu'on l'entend, d'être une vieille droite fermée sur ses valeurs, mais au contraire réactionnaire dans le fait de revenir sur des valeurs qui nous définissent et des valeurs que l'on perd peut-être de vue. Je vous lis la question parce que c'est Serena qui m'y fait penser, mais je crois qu'il y a un fondement politique majeur là-dedans. Alors, il y a la part de punk. Le problème, c'est que bon, le mot steampunk, c'est une blague. The word, the joke.
Well, punk, in English, when, anyway, punk is...
When KW Jeter?
Pardon?
When KW Jeter created
yes.
the word?
Yes. Yeah. Genre is populated with punk suffixes. It's the isme of new literature and art.
La littérature de genre est totalement ponctuée du suffixe punk. On pense par exemple au cyberpunk. Yeah.
So K.W. Jeter in an article was writing about all of the authors writing about Victoriana, and he said maybe we're some kind of steampunk or something like that.
Donc,
so it was a
Jeter,
joke.
L'un des pères fondateurs du mouvement, a écrit donc dans un quand il a créé ce mot, a dit qu'il entourait avec tous ces auteurs qui écrivent des sortes d'uchronies sur l'ère victorienne, on pourrait forcément appeler ça steampunk.
But I do think that there's punk and steampunk.
Oui. Oui, c'est une blague qui est restée. Parce qu'à l'époque, quand le mot apparaît, le cyberpunk est immense. Le cyberpunk était un mouvement littéraire et artistique qui était défini par des manifestes, qui avait une école extrêmement stricte, avec des artistes qui étaient virés parce qu'ils n'étaient pas dans la norme, etc. Donc lui, il invente ça, mais c'est une boutade. Sauf que il a baptisé quelque chose et le mot est resté. Bah, c'était dans, il y avait toute une polémique dans le magazine Locus à l'époque, et lui il avait écrit ça, cette lettre en disant voilà, c'est steampunk. Mais voilà, le steampunk n'a jamais été défini. Il n'y a pas d'école, pas de manifeste, il n'y a pas de texte qui nous dira le steampunk c'est ça. Ou alors on le dira à un moment. Aujourd'hui on peut dire ça ressemble à ça, mais on ne sait pas ce que ça sera demain.
Oui. C'est aussi simple que ça. On peut essayer de chercher une définition pour un maximum de personnes, mais ça ne va juste pas être possible. Chacun va avoir sa vision qui va être, je pense, piquée ça et là, et aussi qui va évoluer à l'intérieur de soi. Et qui au final justement va déboucher sur un style, qui se rapproche, c'est-à-dire justement d'une esthétique, j'aime pas le mot, mais d'une idéologie, on va dire, d'un mouvement, voilà. Et au final, on débouche sur quelque chose qui s'y rapproche, mais qui reste personnel. Et c'est ce qui fait justement l'intérêt du style, c'est que tout le monde peut y avoir accès, parce que ce n'est la propriété, entre guillemets, de personne.
Parce que la grande différence entre les punks qui étaient bon, les Sex Pistols, hein, c'était une vaste entreprise commerciale quand même. Et la différence entre les punks. Mais si, welcome back Karen. Et la différence entre les punks et le steampunk, c'est l'internet. Les punks avaient les fanzines pour communiquer. Ça prenait du temps. Le steampunk avec l'internet, les forums, on est dans un instantané de la communication et une facilité dans la création de communautés qui est sans commune mesure. Quelqu'un qui se sentait punk en 1977, s'il habitait à Libourne, il pouvait être très seul. Quelqu'un qui est steampunk au XXIe siècle, il est en communauté avec le monde entier. Voilà, c'est une opinion.
Justement, à ce niveau-là, ce qu'on ne peut pas dire, c'est une des principales caractéristiques qui fait cette différence par rapport au cyberpunk, qui est quand même, franchement, très occidentalisé dans ses développements, dans ses apparences, qui est très tributaire finalement des avancées technologiques qu'on va retrouver dans tous les pays occidentalisés, quand bien même finalement ils soient asiatiques, par exemple le Japon. Et au final, est-ce que vous diriez que d'une certaine manière, il n'y a pas une forme de rébellion par rapport à justement ce côté super structuré du cyber?
Well, not necessarily structured, but steampunk was definitely a rebellion against the cynicism of cyberpunk. Steampunk was considered to be a very optimistic and positive view of science fiction.
Ouais, fun et cool. Fun and cool. Un récit steampunk, ça reste un récit de grande aventure.
Mais d'une certaine manière, ils sont tributaires de toute l'avancée technologique.
Sachant qu'ils veulent rentrer une partie de l'avancée technologique. Et que quand même, leur méca qui sont des samouraïs, il n'y a pas de trucs qui sont complètement
excellents. Non, je ne vais pas nier ça. Au niveau de l'apparence, je ne connais pas.
Moi je veux bien, mais on est encore dans 4 heures. Pourquoi pas?
On a un petit peu débordé sur le temps, mais si vous avez des questions, c'est le moment d'y aller.
Nicolas. J'avais une petite question. En fait, quand j'ai découvert le steampunk, parce que les gens fabriquaient eux-mêmes ce qu'ils faisaient, tout ça, les échanges. Et en fait, ça commence à évoluer parce qu'il y a des films, des animaux, des steampunk, il y a beaucoup
on commence à avoir des marques qui ont des choses en fait. Alors ça peut être tout à fait éventuel, justement, c'est un peu imprimé avec un journal. Mais on commence à avoir des gens, on se rendait en plus à Japan Expo, où il y avait un mélange de Nicolas et autres, et donc il y avait vraiment des gens qui avaient fabriqué eux-mêmes leurs menus. D'autres étaient cosplayés en justement en un personnage d'un film sans trop savoir que ça pouvait être. Et d'autres étaient simplement achetés des menus, des choses. Et donc je me demandais surtout de leur faire un pensier et comment vous pensiez cette évolution-là.
Je crois que le steampunk est mort plusieurs fois et il peut mourir encore, il va renaître et se réinventer. Ce n'est pas quelque chose d'unique et constitué. C'est-à-dire que les marchands du temple sont là. Il suffit de faire une recherche sur eBay steampunk et là vous allez avoir des trucs produits à la chaîne en Chine qui sont là. Mais bon, c'est inévitable. Et je ne crois pas que le fait qu'il y ait la commercialisation, ça empêchera la personne qui est dans la création de faire quand même ce qu'elle veut faire.
C'est vrai avec le goth, c'est vrai avec le super en général.
Voilà, mais le goth a été totalement récupéré et totalement légitimé. Une grand-mère peut acheter maintenant des accessoires goth à sa petite fille. Enfin, pas n'importe quel accessoire.
Everyone is very concerned about, in the United States anyway, the fashion houses scavenging designs.
Tout le monde s'inquiète dans les communautés américaines du fait que aujourd'hui les grandes marques de couture se jettent sur le mouvement steampunk pour faire un peu d'argent.
But artisans in the United States are very hopeful because we have Etsy and it allows, even though there is not the demand for people to no longer make their clothes, they'd rather buy them, that is still giving money to small business artisans, which that community was not there before.
Yeah,
so there's a positive side to that.
Cet énorme site qui est Etsy, qui a une énorme importance aux États-Unis plus que chez nous, et ça donne quand même cette opportunité à des artistes de créer des objets uniques et à d'autres personnes de les acheter, même si elles ne font pas eux-mêmes. Donc c'est une façon un peu de contourner ce côté fringantiel.
So I don't necessarily see it as a bad thing. When you start spending, you know, $10,000 on a steampunk costume, maybe it's questionable. But
c'est à partir du moment où vous dépensez $10,000 dans un costume steampunk, d'après, il faudra vous poser des questions. Peut-être encore une question?
You spoke about steampunk in many things, fashion, comics. But you didn't talk about television or movies, actually.
We did talk, yes.
And I think it's very important because it's the main vector for mainstreaming steampunk and the steampunk movement.
It is. Yes.
On a parlé de la mode, de la BD, on a parlé de la musique, mais on n'a pas parlé de la télévision, qui est quand même pour beaucoup de gens un des plus grands vecteurs culturels.
We do discuss movies and television in the book, but it's sort of it has there been a steampunk movie?
Yeah.
Steamboy. Well, there's Steamboy, there's Wild Wild West.
Oh,
ils ont
TV
de
show
de
and the movie. Yeah.
De la télé et du cinéma dans leur livre. Ils se sont posé la question, est-ce qu'il existe vraiment un film caractéristique du steampunk? Donc Steamboy.
Steamboy, c'est le seul film steampunk. Le seul film steampunk, c'est-à-dire qu'il correspond vraiment à ce que le genre.
On pas de Wild Wild West.
Si, la série télé.
La série télé, bien sûr.
La série télé, Les Mystères de l'Ouest.
Ah, ouais.
Qui est steampunk du début à la fin.
Et c'est le film qui doit sortir l'année prochaine, l'allemand avec la base. passe sur la Lune.
Ah, mais oui!
Iron
Sky!
Iron Sky!
In 2012, they decided to come back to conquer the world from the moon.
Cool.
And they used this Zeppelin in the 1940s design.
Monsieur, to try and answer your question about whether the cinematic adaptations of steampunk is a commercialization of it, Hollywood has tried very hard to cash in on the hipness of steampunk, but they have not been able to capture the spirit of steampunk. They don't ever use the story as a way to question history, the uchrony, as he discussed. So what we sort of talk about is all of these movies and TV shows come very close in that they have mechanical arms, the costumes, the superficial aspects of steampunk, but they don't ever actually capture the essence of it. And I'm not sure that a commercial film will be able to do that so much, but I could be wrong. I hope I'm wrong.
Hollywood n'a jamais réussi à essayer. Enfin, Hollywood a essayé vraiment essayé de faire des films steampunk, des séries télé. On voit beaucoup de cet aspect esthétique. On voit des bras mécaniques, on a des zeppelins en voiture, voilà, des costumes. Mais en fait. Hollywood n'a pas réussi à capturer l'essence, le questionnement historique, le questionnement de la science, et elle pense que effectivement, son opinion est qu'il n'y arrivera pas.
Voilà, sauf Steamboat.
You think Steamboat accomplishes that? I have not seen Steamboat. We write about it.
A little boring. Boring.
Hein?
Boring. 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 To be honest.
Dans le cinéma, il y a très peu de choses vraiment steampunk. Par exemple, dans le dieselpunk, en ce moment, il y a des choses qui travaillent. Typiquement, pour moi, le préféré, c'est Sky Captain.
Oui, visuellement, mais. Quoique, Nick Fury jouait. Ah, oui.
Oui, le Captain America, quand c'est pas d'un point de vue design, mais
j'aime pas cette diesel parce que ça parle un peu plus. En termes de steampunk fait à Hollywood, il y aura l'araignée mécanique des Mystères de l'Ouest film. On oublie tout le reste, mais la scène avec l'araignée mécanique. Mais après, ce sont que des instants que l'on peut sauvegarder. Des bribes une tentative est peut-être Sherlock Holmes.
Oui.
Qui est un très. Enfin, à mon goût, un très mauvais Sherlock Holmes.
C'est pas un Sherlock Holmes.
Mais.
C'est un bon film.
Mais qui fait. Voilà, qui va dans une direction, une ambiance steampunk. Voilà.
Il y
avait le Rocketeer
de Disney aussi.
Alors, le Rocketeer, c'est un film mutilé.
Voilà.
Il y a eu de tels problèmes de production. Bon, ça aurait pu être énorme. Dave Stevens avait dû travailler des dizaines et des dizaines d'heures de réunion pour pouvoir montrer un bout de bas dans le film final. On se demande pourquoi ils ont choisi de faire ce film-là.
Ils ont choisi un studio.
Et surtout quand on parle de questionner la science, on parle de quoi exactement? C'est quelle question qui est la principale? C'est à quoi sert la science et quoi exactement la question?
Je serais tenté de dire que, comme dans toute littérature, et là on reprend une forme de questionnement qui est héritée de la science-fiction, c'est un questionnement éthique. Et là, ça peut être éthique, voire philosophique. voire rien du tout. Voilà, c'est simplement mettre un super méchant, parce que c'est sympa d'avoir un super méchant. Voilà, tout est possible.
Ouais, mais tu la formulerais comment, la question?
Ah non, ça je verrai ici, ouais.
There's a unique trend in American literature at the end of the 19th century. They very much saw science as a philosopher's stone. There was a series of pulp fiction magazines called Edison Knots.
Un mouvement aux États-Unis à la fin du 19e qui s'appelait les Edisonades.
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 D'après Edison.
Ah, d'accord.
And they all featured very working class boy geniuses who basically pulled themselves up by their bootstraps.
La plupart des personnages principaux étaient des jeunes gens des classes laborieuses et
méritants.
Grâce à leur génie, arrivaient à sortir à progresser socialement.
They were geniuses, so what they utilized was steam technology and sciences. They would make slaves that would go and, you know, dig up all the gold for them in the West. And
dans ces ouvrages, c'était vraiment une idéalisation de la science. Donc peu importe qu'il faille des esclaves pour aller creuser des trous en Afrique pour récupérer de l'or.
It's not necessarily anything that we're proud of in the United States. It's very jingoistic, but it kind of showed how people had faith in science as answering everyone's problems. And what steampunk kind of does now is it plays upon that sort of sense of magic of science, but also keeps in mind that there is it's not the final solution to everything.
Le steampunk aujourd'hui fait référence beaucoup à ces éditions. À l'époque, on pensait que la science pouvait résoudre tous les maux de l'humanité.
Ouais.
Donc il y a une confiance aveugle dans cette science. Il y a un peu de ça aujourd'hui dans le steampunk, ce côté magique de la science qui pourrait tout résoudre.
Ouais, ouais.
Mais malgré tout, derrière, il y a quand même ce sentiment que ça peut résoudre des choses, mais pas trop.
D'accord.
Il reste en fait une sorte d'énigme spirituel.
Ah oui, parce que nous avons eu Hiroshima.
Ah.
On a eu la Première Guerre mondiale, on a vu la science à l'œuvre dans la Première Guerre mondiale, les tanks, le gaz moutarde. On a eu la Deuxième Guerre mondiale, on a vu la science à l'œuvre, donc on a vu Hiroshima. Donc maintenant, la science, voilà, on sait à quoi s'attendre avec. On ne peut pas lui faire confiance jusqu'au bout. Ah, vidéo games.
Video games.
Could I, for a moment, just go back to his comment, Monsieur? Have you seen the film, or has anyone here seen the film The Prestige?
Oui, yes. The book.
Yes, the book by Christopher Priest. I think that's a great illustration of the magic of science and how you can't really trust what you're being shown. So it's just more of a comment than anything else. Video games?
Vous avez vu Le Prestige? Oui, enfin, ou lu Le Prestige, parce que I prefer the book.
Yes. I love the book. I prefer the book too.
I love Christopher Priest.
Yes, it's amazing.
Enfin, oui. et justement, enfin, avant de m'intéresser au steampunk, ce qui est amusant, enfin, je connaissais Edison, j'avais jamais entendu parler de Tesla.
Tesla,
Tesla.
Celui qui a fait
Oui. Bah, le rival. Bah, celui qui n'a pas eu de chance. Celui qui était le moins commercial des deux. Et ce qui est intéressant dans les approches, dans nos deux livres, parce qu'il y a quelque chose dont il faudrait qu'on parle quand même, c'est l'approche culturelle. Entre son approche américaine et sa culture, et mon approche plus, enfin, française avec une culture classique, et de voir que nous abordons le même problème et que nous trouvons des solutions similaires, mais nous passons par des chemins différents. Et c'est cela qui est fascinant avec le steampunk. J'ai hâte de lire du steampunk asiatique ou africain, mais produit par des Asiatiques. Produit par des Africains. Parce qu'il est évident qu'ils vont s'en emparer tôt ou tard. Aujourd'hui, demain, dans 10 ans, je ne sais pas. Mais ça va venir.
Il y a déjà un mouvement steampunk islamique. Il y a un site très intéressant.
I think it's Islam steampunk.
En tapant steampunk Islam, vous allez tomber dessus. Mais c'est très intéressant.
Islamique ou islamiste?
Non, pas islamiste. Et en fait, ça parle du 13e en fait. Ça parle du 13e siècle. Ouais, très intéressant.
I'm trying to find that.
À Corbeau, peut-être. Mmh. C'est la Renaissance.
I don't have the name, but the author's name is Yacoub Islam. Yacoub Islam.
Voilà, vous tapez Yacoub Islam sur Internet. Vous allez tomber sur son site.
Muslim steampunk.
Muslim. Musulman. Steampunk musulman.
Ah, c'est comme les steampunk chrétiens, quoi.
Je sais pas, j'en ai pas lu, mais.
C'est comme la Steam Inquisition.
Ouais, Steam Inquisition. c'est pas religieux.
C'est pour la science. Il y a eu un mouvement d'ouvriers qui cassaient les machines. Ça s'appelle le ludisme.
Oui,
Is ludist part of the steampunk movement? You know the workers.
Oui.
Yes. I think so.
Oui. La machine à différence. Voilà, qui se déroule juste après le mouvement ludique.
Ah, d'accord.
Et donc, enfin, je peux pas trop en parler parce que ça révèle des points de l'intrigue, mais c'est totalement intégré à l'histoire. Oui.
Ah, d'accord.
On va juste terminer par la dernière question de la demoiselle qui attend tout à l'heure.
J'avais une question un peu indiscrète, c'est est-ce que vous avez tous les deux un costume?
Alors, ça c'est une excellente. On en a parlé tout à l'heure. Elle, c'est la princesse Leia.
Leia Punk.
Et toi?
Et moi, pour être honnête, voilà, je vais au maximum ça. Mais c'est mon maximum. Plus, ça devient une violence que je me fais à moi-même. Et d'ailleurs, non, mais ça c'est intéressant. Ça montre à quel point nous sommes tous différents et que c'est une tolérance extrême. Il n'y a pas de règles préétablies pour aimer le steampunk. C'est pas tu dois faire ça, tu dois aimer ça, tu dois penser ça.
Basé uniquement sur l'esthétique vestimentaire.
Voilà, on se retrouve.
Ce qui revient beaucoup, on a l'impression que c'est axé exclusivement là-dessus. Bah, autre que la littérature ou l'art en général.
Tu crois?
C'est parce que c'est le premier visuel qu'on va recevoir en fait. Et au fur et à mesure, on va en venir au reste de la philosophie.
Oui.
D'accord.
Peut-être que les gens arrivent en premier par le costume.
Moi, si tu veux, je peux te donner ma vision que j'ai peut-être au quotidien. Parce que moi, j'ai un rayon Steam à la librairie et en fait, je m'aperçois que en fait, les gens, ils connaissent pas du tout. Et qu'en fait, la première question, c'est ils disent quoi sur la pancarte des amis? Donc, en fait, je m'aperçois qu'en fait, les gens, ils s'intéressent vachement plus à l'héritage historique qu'on se comprend. Donc, en fait, le costume, ils n'ont rien à péter. Ils ont moins à péter quand ils commencent à s'y mettre, quand ils commencent à dire en disant « Ouais, quand même, ça m'intéresse un petit peu, je veux ça. » J'en ai un petit. Et en fait, le premier aspect, c'est quand je leur raconte la vision historique et les différentes visions historiques qu'on peut avoir et les influences littéraires et tout. Et c'est ça, en fait, qui les intéresse au premier regard pour vraiment les connaître. Voilà.
Parce que non, ce qui serait intéressant, c'est que enfin, quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était toute fin 2007, début 2008. Donc je vous garantis que quand j'ai commencé mes recherches, on n'existait pas. Enfin, moi, je me tournais vers l'étranger, simplement. Et j'ai mis 2 ans de travail pour écrire ce bouquin, parce que j'ai lu tout ce qui est cité.
Ah
mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'à mesure que je travaillais, je voyais surgir des communautés, donc sur Internet, je voyais des choses apparaître presque sous mes yeux. Et j'étais vraiment en prise directe dessus parce que j'étais en immersion vraiment très profonde. Voilà, moi, ma première rencontre avec le steampunk, c'est enfant. Alors, on peut choisir, hein, soit la première fois que j'ai vu Famille de sous des mers, soit quand j'attendais que Miguelito Loveless se fasse exploser par James West. Mais j'ai 40 ans. Quelqu'un qui aura 30 ans, quelqu'un qui aura 20 ans, quelqu'un qui aura 15 ans, va avoir une entrée différente. Alors, ça peut être le costume, pas encore la musique, mais ça peut venir. La littérature, pas souvent, le jeu vidéo, énormément.
Avec The Ocean, simplement. Moi, je connais beaucoup de personnes qui se sont dit au steampunk, enfin, pas vraiment dit, mais qui sont intéressées par le jeu vidéo. Par des jeux comme Bioshock, par exemple.
Bioshock, les nains dans Warcraft, qui sont un peu steampunk.
FF9
Oui, oui. Parce que là c'est l'esthétique.
Myst aussi.
Ah oui. Mais je ne l'ai jamais fini, donc...
Allez, les feuilles bleues et les feuilles roses, qu'est-ce qu'on en bouge ?
C'est le jeu steampunk quasiment par excès, enfin steampunk fantasy, c'est vrai. Il y a
JDR aussi.
Oui, JDR, c'est extrêmement plus que jeu vidéo, c'est une niche beaucoup plus restreinte, donc au final, ça touche quand même énormément de monde.
Ça touche plus de monde à l'époque et ça touche moins à l'heure actuelle.
Ça en touche moins à l'heure actuelle.
C'est
à part bon,
après, pareil. On y est encore
aux 4 heures, c'est ça. On va conclure. Parce que là, on va se faire
venir. Non, quand même pas.
Oh non,
c'est un peu de salive aussi.
Ouais, quel futur voyez-vous pour le steampunk francophone?
I can tell you what I hope the future of French steampunk is.
Ce qu'il espère pour le steampunk français, francophone.
I would really like to see French translations in English of the French steampunk. We have no access to French steampunk literature in the States, and I would really, for instance, Etienne just showed me The Moon Trilogy,
oui,
and Jean Morgan's Rio. Been telling me about it all week, and I really, really want to read it, but I don't have the access to it at the moment.
Ce qu'il espère pour le futur du steampunk francophone, c'est qu'au moins ça soit traduit en anglais. Le livre d'Étienne, notamment, la trilogie steampunk de Joanne Hennio. Et tout ça, en fait, elle aimerait qu'elle, ne serait-ce qu'elle, avoir accès à tous ces ouvrages.
An important thing would be that also all the steampunk works that have been made in the US or in the UK are to be translated.
Il faudrait aussi que toute la production anglo-saxonne soit traduite en français. Mais on y vient petit à petit. J'ai discuté avec certains auteurs anglo-saxons qui ont été approchés par des éditeurs français, mais c'est trop anglais. Donc,
Si vous voulez plus de traductions, faut acheter des livres. Il faut que ça se vende. Et voilà, on est dans une bête logique commerciale. Si le livre se vend bien, au présent. Voilà, les éditeurs.
Achetez-le chez Tali.
Pour vous dire, je fais bien peur aussi, hein, pour ceux qui s'intéressent en anglais, qui arrivent à lire en anglais. Voilà.
better translations. Better translations.
Donc c'est une question qui vous s'adresse à vous.
Voilà, ouais.
Comme il y a, vous avez parlé de musique, y a-t-il des groupes de steampunk qui se produisent?
Is there any steampunk bands? Oui, on a parlé de Human Wine tout à l'heure.
Le plus gros, en fait.
Connu serait Avnipar.
Avnipar quand même.
Vernian Process.
Vernian Process.
Vernian Process.
My favorite, who isn't, they don't call themselves steampunk, but they're called Architect. Mm-hmm. They use Tesla coils to make electronic music. It's amazing.
Architect.
They do a Doctor Who song that's amazing.
L'un des groupes s'appelle Architect, qui n'est pas la même idée, qui ne s'appelle pas, qui se donne pas la même étiquette steampunk. Ils ont des Tesla,
des bobines de Tesla.
C'est un gars qui est en armure de chaîne de maille entre deux bobines Tesla. Et en fait, en faisant les gestes et en réutilisant les courants électriques qui en émanent, il fait de la zik.
C'est amazing.
C'est pas tombé par terre.
And the best part is their band t-shirts are diagrams of how to build your own Tesla coil.
Les t-shirts, vous avez un plan pour faire vous-même vos tours Tesla à la maison. Tu feras plaisir à EDF. Il faut aussi avoir une cote de mic. Je pense qu'on peut applaudir maintenant.